Quand on est un archange, on a les pieds oranges. Quand on est un démon, on a les pieds citron. C'est contre la nature de porter des chaussures et de cacher ses pieds et de les enfermer. Regardez les canards, les poules et les lapins, ils ne portent jamais de mocassins. Quand on a les pieds bleus, c'est qu'on est amoureux. Quand on a les pieds verts, c'est qu'on est en colère.
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevés. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé! Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Chers auditeurs, en cette fin d'année universitaire, vous êtes probablement en train de prendre les pieds à votre cou, question rédaction. Mais si vous commencez à péter des câbles, il peut être temps de lever le pied. Si vous êtes facétieux, vous pouvez avoir envie de me faire un pied de nez. Et si vous êtes agressif, un croche-pied. Quelle que soit votre humeur, il y a une métaphore de pied qui va avec, et aussi un texte, et aussi une voix. Pour cette 14e et dernière émission, les ions des oreilles portent donc leur intérêt pour les parties du corps vers le bas. Non, non, plus bas, ce niveau-là c'était l'épisode 9, c'est pas la taille qui compte, bande de petits cochons. Nous sommes donc au rat des pâquerettes, littéralement, mais pas obligatoirement métaphoriquement. Comme vous avez vu avec la sublime lecture de Caroline, alias moi-même, enfin l'autre moi-même, Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, sait faire vibrer les cordes de votre cœur, même avec des élastiques de vieux souliers. C'était ma bohème. L'autre grand poète que vous avez entendu en introduction, c'est Carlos, avec sa chanson « Les pieds bleus », grâce à qui vous savez maintenant que les archanges ont les pieds oranges et les démons, les pieds citrons. Prochaine fois qu'une petite voix vous chuchote à l'oreille, regardez les pieds qui vont avec. Mais oui, enjeu moral, pourquoi pas tant qu'on y est. Les pieds sont prosaïques, poétiques, volants, tragiques, grotesques, douloureux, respectueux, sacrés, intimes et même isolés. Ça, c'est du programme. Et pour le parcourir pas à pas, voix par voix, nous voilà hélas réduits à deux, Willem et moi-même, comme une pauvre paire de petons dont le rôle est d'amener les ions des oreilles au but de leur voyage radiophonique. Camille étant plongée de la tête aux pieds dans le marécage du mémoire, vous n'aurez droit ni à sa douce voix, ni à ses cheveux bouclés. Mais on lui souhaite d'en venir à bout en un seul morceau et de ne pas trop attraper des fourmis dans les pieds à la bibliothèque. J'aimerais pouvoir dire que Romain, derrière ce tableau de mixage, nous sert de troisième jambe, mais ce serait un peu scabreux. Bon, heureusement qu'on a quand même une tête pour diriger cette randonnée pédestre et auditive. Mais non, pas la mienne, moi je suis folle. Celle de Figaro, notre cher petit crâne en papier mâché, qui, faute d'avoir des papates ou un cerveau, offre quand même des bonbons. Haribo World Mix, faute de trouver un bonbon en rapport avec le thème du jour, j'ai décidé de réintroduire la VO étrangère, car vous n'en trouverez point aujourd'hui, mes amis. Tout se perd. Pas de lecture insolite non plus, désolé, enfin pas vraiment. J'aime bien vous lire des choses que je découvre dans ma vie quotidienne, or ma vie quotidienne, depuis 2 mois et demi, c'est la bibliothèque. J'en ai quand même 2, sans rapport avec les pieds, mais je suis pas élève de l'ENS pour rien. Je peux justifier n'importe quelle connerie de façon pédante. Attention. Donc ça, toilette des filles, côté ENS, au fond. La tradition, c'est la passation du feu et non la vénération des cendres.
Et le rapport avec les pieds ?
Passation du feu, flamme olympique. Le sport le plus important des Jeux Olympiques, la course à pied.
Ah ouais.
Je peux le faire. Du côté BIU, dans toujours la toilette du fond, il y a quelqu'un qui semble avoir pris du sorte de délire religieux, donc il y a marqué un peu partout « Dieu est amour »,« God is love ». Et sur le miroir, très inspiré, « Je préfère God, G-O-D, que God, G-O-D-E ». Étant donné que les pieds ont souvent, comme les parties étaient intimes, étaient considérées comme quelque chose de tabou dans certaines cultures, je pense qu'il y a un lien. Voilà.
Soit.
Soit. Pour laisser quand même la parole à une comédienne plus douée que moi, voici Anso du Coco, alias Florence Foresti, qui aurait été Miss Pied.
Pardon, mais
oui.
Qu'ont-ils de plus que les autres pieds, les pieds gagnants?
Alors, mes pieds à moi, déjà, je peux vous dire que je suis du 46. Alors, je peux vous dire que les juges en sont fous, ah bah ça en jette.
Et alors, moi, je n'ai pas le pied grec ou égyptien ou je ne sais quoi, j'ai le pied ouzbek.
Ah.
C'est très rare, le pied ouzbek, c'est le petit orteil qui dépasse tous les autres. C'est magnifique, c'est superbe, oui. C'est magnifique, c'est signe de grande sagesse.
Ah, voilà.
Oui, chez les ouzbeks, bien sûr.
Bien sûr. Vous pouvez nous montrer, peut-être,
alors? Ah non, non, non.
Pourquoi?
Parce que c'est un sketch, imbécile.
Du coup, petit tour de table, je voudrais savoir si, comme Anso, vous chaussez du 46, et parce que c'est pas suffisamment indiqué comme question, j'aimerais que vous me décriviez une paire de chaussures, aujourd'hui décédées, c'est-à-dire à la poubelle, impossible à mettre, que vous avez aimée à la folie.
Alors non, je ne chausse pas du 46, mais du 43,5. Ça dépend selon les chaussures, parfois je suis du 43, parfois du 44. Et une paire de chaussures que j'ai profondément aimée, qui est aujourd'hui morte. Je pense que c'était ma première paire de Converse rouges, comme celle du 10e Docteur. Donc voilà, j'étais très content quand je les ai eus. Le problème des Converse, c'est que c'est de la toile, et le problème de la toile, c'est que ça finit par mourir. Donc voilà. Mais elles sont remplacées depuis quelques temps par une nouvelle paire de Converse rouges.
D'accord.
Donc c'est une nouvelle génération.
Romain ?
Alors moi, je fais du 44 ou 45, c'est pareil, ça dépend des saisons. Une paire de chaussures que j'ai adorées. Alors je ne les mets plus, mais non pas parce qu'elles sont mortes, mais parce qu'elles ne vont plus très bien avec moi. Sauf qu'elles m'allaient très bien il y a 4-5 ans. Je les avais achetées à Londres, à Camden, dans cet endroit où il y a les chaussures les plus extravagantes du monde. Et c'était des grosses baskets orange, verte et bleu fluo. Voilà. Et sinon, j'ai le souvenir que quand j'étais petit, j'ai eu des baskets clignotantes.
Ah,
avec des petites LED rouges. Voilà.
Spéciale dédicace de massacre.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais tout ce qui clignote et qui fait moins de pointure 35, ça fait quand même des bons souvenirs.
D'accord. Moi, je fais du 39 ou du 40, donc du 39,5 comme vous. On a des pieds très variables. Et moi, c'est simplement une paire de sandales qui était parfaite, qui était genre toute simple, en cuir et tout. Et maintenant, on les trouve plus parce que moi, je voulais celles où il y a une lanière derrière, ce qui fait que tu peux vraiment marcher avec et pas juste faire des claquettes dans la maison, quoi. Et impossible d'en trouver maintenant. Et celles que j'avais, bah, du coup, avec le temps, trop déformées, impossible à porter. Voilà. Eh bien. Commençons notre périple d'un pas vif et leste, mes amis, en allant vers l'univers enchanté des contes. Là-bas, on trouve une fascination pour les pieds et les chaussures qui confinent presque au fétichisme. Cendrillon, le chapeauté, les bottes de cette queue du petit pousset, les chaussures rouges d'Andersen. Le dernier est particulièrement charmant. Pour avoir voulu mettre ses belles chaussures rouges à l'église, Christine finit avec les pieds coupés. Un peu plus classique, mais non moins glauque, La Petite Sirène. Traduction de David Soldi, lecture de Willem.
Le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince. Elle s'assit sur la côte et but l'élixir. Ce fut comme si une épée affilée lui traversait le corps. Elle s'évanouit et resta comme morte. Le soleil brillait déjà sur la mer lorsqu'elle se réveilla, éprouvant une douleur cuisante. Mais en face d'elle était le beau prince, qui attachait sur elle ses yeux noirs. La petite sirène baissa les siens, et alors elle vit que sa queue de poisson avait disparu, et que deux jambes blanches et gracieuses la remplaçaient. Le prince lui demanda qui elle était et d'où elle venait. Elle le regarda d'un air doux et affligé, sans pouvoir dire un mot. Puis le jeune homme la prit par la main et la conduisit au château. Chaque pas, comme avait dit la sorcière, lui causait des douleurs atroces. Cependant, au bras du prince, elle monta l'escalier de marbre, légère comme une bulle de savon, et tout le monde aima sa marche gracieuse. On la revêtit de soie et de mousseline, sans pouvoir assez admirer sa beauté, mais elle restait toujours muette. Des esclaves, habillés de soie et d'or, chantaient devant le prince les exploits de ses ancêtres. Elles chantaient bien, et le prince les applaudissait en souriant à la jeune fille. « S'il savait, pensa-t-elle, que pour lui j'ai sacrifié une voix plus belle encore ?» Après le chant, les esclaves exécutèrent une danse gracieuse au son d'une musique charmante. Mais lorsque la petite sirène se mit à danser, élevant ses bras blancs et se tenant sur la pointe des pieds, sans toucher presque le plancher, tandis que ses yeux parlaient au cœur mieux que le chant des esclaves, tous furent ravis en extase. Le prince s'écria qu'elle ne le quitterait jamais, et il lui permit de dormir à sa porte sur un coussin de velours. Tout le monde ignorait les souffrances qu'elle avait endurées en dansant. Le lendemain, le prince lui donna un costume d'Amazone pour qu'elle le suivît à cheval. Ils traversèrent ainsi les forêts parfumées et gravirent les hautes montagnes. La princesse, tout en riant, sentait saigner ses pieds.
Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser, le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle ? Ah, pieds. On ne va nulle part en bateau. battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter, danser, flâner le long de ces... Comment ça s'appelle ? Rue. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas.
Merci Will, dur de marcher quand on n'a que le pied marin. Pour ceux qui ne connaissent que la version de Disney, en virgule avec la chanson « Partir là-bas », je suis désolée d'avoir gâché votre enfance, mais Andersen, c'est rarement un monde de bisounours. Sur le thème des pieds douloureux, voici une variation chinoise et réaliste. Kuei Lan, l'héroïne de Vent d'Est, Vent d'Ouest, roman écrit par Pearl Buck, a été élevée de façon traditionnelle. Elle épouse un homme qu'elle n'a jamais vu avant et désire ardemment faire une bonne épouse et une bonne mère. Hélas, son mari, ayant fait des études en Occident, est insensible à tous les charmes qu'on lui a appris. Et un soir, il lui fait une demande terrible, débander ses pieds. Traduction de Germaine de la main. Hé hé, main, pied, ça marche. Lecture de moi-même. Après un long silence, mon mari ferma son livre et me regardait attentivement. « Kuei Lan, » dit-il. Mon cœur bondit, c'était la première fois qu'il m'appelait par mon nom. Qu'avait-il à me dire, enfin ? Je levai timidement les yeux vers lui. Il continua. « Depuis notre mariage, je veux vous demander si vous ne voudriez pas débander vos pieds. C'est malsain pour votre corps entier. Voyez, vos os sont comme ceci. » Il prit un crayon et dessina rapidement un affreux pied nu, tout ratatiné, sur une feuille de son livre. Comment savait-il ? Je n'avais jamais bandé mes pieds devant lui. Nous autres, femmes chinoises, ne les montrons jamais. Même la nuit, nous portons des chaussettes de toile blanche. Comment savez-vous ? Lui demandai-je, haletante. Parce que je suis un docteur qui a fait ses études en Occident, répondait-il. Aussi, je désire que vous débandiez vos pieds, car ce n'est pas beau, et puis c'est passé de mode. Ça ne vous touche-t-il pas ? Il sourit légèrement et me regarda avec bienveillance. Mais je retirai hâtivement mes pieds sous mon fauteuil. J'étais saisie par ses paroles. Pas beau ? Moi qui avais toujours été si fière de mes petits pieds. Toute mon enfance, ma mère elle-même avait présidé au bain d'eau chaude et à l'enveloppant des bandes, de plus en plus serrées, chaque soir. Quand je pleurais dans ma souffrance, elle me priait de songer au jour où mon mari louerait la beauté de mes pieds. Je baissai la tête pour cacher mes larmes. Je me rappelais toutes ces nuits agitées, ces journées pendant lesquelles je ne voulais ni manger, ni jouer, et où je restais assise sur le bord de mon lit, en balançant mes pauvres pieds pour alléger la pression du sang. Et maintenant, après avoir tout supporté jusqu'à ce que la douleur cesse depuis à peine un an, apprendre qu'il les trouvait laids ? Je ne peux pas, dis-je. J'étranglais en me levant et je dus sortir du salon, incapable de retenir mes larmes. Ce n'était pas que je tinsse à mes pieds d'une manière exagérée, mais si mes pieds, revêtus de leurs souliers habilement brodés, ne trouvaient pas grâce devant ses yeux, comment moi pourrais-je jamais espérer gagner son amour ? 2 semaines plus tard, je partais faire ma première visite à la maison de ma mère, selon notre coutume chinoise. Mon mari ne m'avait pas reparlé de débander mes pieds. Il ne m'avait pas non plus appelé par mon nom.
Te quiero porque eres claro, 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 como la planta de mis pies. Ay, 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 como el amor después de hecho.
Traduction. Dans la chanson Obtener un sí, Shakira aime son Jules parce qu'il est clair, clair comme la plante de ses pieds. Ouais, ça parle d'amour, de pieds, de peau blanche, et c'est pas français. Le lien entre cette chanson et le roman de Pearl Buck est si évident que c'est limite de l'intertextualité. Sinon, rassurez-vous, après avoir débandé ses pieds, la vie de Kuei Lan s'améliore exponentiellement et elle vit heureuse avec son mari, même qu'il soit un petit garçon. Côté famille, le personnage éponyme qui suit n'est pas aussi chanceux. Vous connaissez tous le mythe grec d'Oedipe, en voici la tragédie de Sophocle, un extrait de la discussion entre le héros et un berger qui va lui apporter des indices quant à sa terrible identité. Et pour ceux qui ne parleraient pas grec ancien couramment, chacun ses faiblesses, Oedipe signifie « pied gonflé ». Willem en héros tragique et Robin en vieux chenu. Traducteur, le comte de Lille.
Jamais je n'habiterai avec mes parents.
Ô fils, il est clair que tu ne sais ce que tu fais.
Comment, ô vieillard ? Par les dieux, instruis-moi !
Si tu fuis ta demeure à cause de tes parents.
Je crains que Phoebos n'ait été véridique en ce qui me concerne.
Redoutes-tu quelque souillure à cause de tes parents ?
C'est cela même, vieillard, qui m'effraie toujours.
Ne sais-tu pas que tu n'as aucune raison de craindre ?
Pourquoi donc, si je suis né d'eux ?
Parce que Polybos ne t'était point uni par le sang.
Que dis-tu ? Polybos ne m'a point engendré !
Tout autant que moi-même, et pas plus.
Comment celui qui m'a engendré sera-t-il tel que celui qui ne m'est rien ?
Ni lui, ni moi ne t'avons engendré.
Pourquoi donc me nommerait-il son fils ?
Afin que tu le saches, c'est qu'il t'avait reçu autrefois de mes mains.
Et il a aimé aussi vivement celui qu'il avait reçu d'une main étrangère.
Il t'a aimé parce que depuis longtemps, il manquait d'enfants.
Et tu m'as donné à lui, m'ayant acheté ou trouvé par quelque hasard ?
Trouvé dans les gorges boisées de Kitayron.
Pourquoi étais-tu dans ce lieu ?
Je gardais là les troupeaux montagnards.
Tu étais donc un pasteur mercenaire et tu menais une vie vagabonde.
En ce temps-là, ô fils, je fus ton sauveur.
Quel était mon mal dans cette calamité quand tu m'as secouru ?
Les articulations de tes pieds peuvent le dire.
Oh Dieu, pourquoi rappeler cette ancienne misère ?
Je détachais tes pieds qui étaient liés.
Certes, j'ai ces marques depuis l'enfance, et il n'est rien en elles dont je me glorifie.
C'est pour cela qu'on t'a donné le nom que tu as.
Oh, par les dieux, dis-moi si ce fut par l'ordre de mon père ou de ma mère.
Je ne sais. Celui qui te donna à moi le saurait mieux.
Tu m'as donc reçu d'un autre ? Tu ne m'as pas trouvé toi-même ?
Non, un autre pasteur t'a donné à moi.
Quel est-il ? Peux-tu me le nommer ?
Il se disait serviteur de Laios.
De celui qui, autrefois, était roi de cette terre ?
Précisément, il était pasteur de ce roi.
Merci Will. Merci Robin. Virgule de Led Zeppelin, Achilles Last Stand. Entre héros grecs qui ont des problèmes de pied, on se comprend. Les podologues auraient gagné une fortune à l'époque. Pour partir sur un pied plus léger, quoique exponentiellement plus étrange, voici une nouvelle fantaisiste d'un auteur contemporain, Uriele Di Vercelli. C'est le pseudonyme de Willem.
Le hasard n'existe pas. Dieu n'existe pas. Le temps n'existe pas. Tout ce qui existe, ce sont les pieds. Chauvin Plaxius commença sa vie très mal. Non pas à cause de son nom donné par des parents certainement portés sur la bouteille, mais à cause de ses pieds. Organes essentiels pour marcher, ceux de Chauvin avaient une particularité. Ils étaient difformes. Oh, pas la difformité des bas étages, hein, non, la vraie difformité, la plus difforme des difformités. Les pieds de Chauvin n'étaient pas des pieds, c'était des lapins. De vrais petits lapins avec leur fourrure grise, leurs yeux sphériques et leurs dents blanches. Une fois que l'on eut ranimé l'accoucheur de Madame Plaxius et le personnel médical, on consentit enfin à examiner la chose qui braillait. L'IRM révéla qu'il était impossible de changer quoi que ce fût, car...
Les protubérances organiques rattachées au podoïde de votre descendance ont une nervura lichenis renforcée par triple gaine de myéline avec la coda equina, et qui plus est, ils produisent d'importantes quantités de lymphocytes T4, et leur tomie reviendrait à priver votre descendance mâle de défense immunitaire, et vous n'avez pas les moyens, avec la nouvelle crise économique qui vient, de vous payer un abonnement à vie à Actimel.
Les voies de la médecine sont impénétrables. On confectionna donc au gamin un costume destiné à faire croire que ses lapins étaient des pantoufles. Chauvin grandit et il fallut l'envoyer à l'école. Monsieur et Madame Plaxius déménagèrent à New York. Tout le monde sait que les écoles l'acceptent n'importe quoi aux States. Chauvin eut donc une enfance heureuse. Il échappa à une dizaine de fusillades grâce à ses deux lapins qui bondissaient loin de toute humanité à chaque coup de feu. Or, il fallut expliquer à Chauvin sa petite différence et pourquoi il devait nourrir ses pieds et pourquoi il devait leur donner à boire et pourquoi il se promenait avec cet accoutrement débile qui lui donnait des jambes de clown. Chauvin accepta cette révélation comme un paysan trifouillé les oies accepte la chimie quantique. Il hocha la tête et se réintéressa à son camembert. Ses parents crurent qu'il s'en moquait comme de sa première chemise, mais ce n'était pas du tout ça. Non, le cerveau de Chauvin était très lent, et ce n'est qu'à 36 ans qu'il comprit ce qu'on lui avait dit. Aussitôt, il stoppa son activité et prit le premier vol pour la France qu'il put trouver. Ses parents étaient partis finir leur jour à Sainte-Anne. Il rouspéta comme il put. Il s'autorisa même à grogner, mais ses parents, sourds comme des pots, le regardèrent gesticuler en souriant bêtement. Ils croyaient que Chauvin venait s'inscrire à une comédie musicale de Broadway. Irrité par leur sourire béat, Chauvin s'en fut, cachant comme il le pouvait ses lapins. Il courut, ou plutôt devrait-on dire il bondit, jusqu'aux urgences où il expliqua son problème au docteur Maison. Ce dernier conseilla à Chauvin de se faire interner. L'homme au pied en lapin, et aux oreilles de chou, mais ce n'est pas important pour l'histoire. Bien qu'une nuit, Chauvin fut réveillé par son pied droit qui tentait de lui dévorer l'oreille gauche. Trouva alors la solution, il devait acheter des chaussures. Cette solution était évidente, les chaussures font l'homme. Donc, en mettant des chaussures, Chauvin serait un homme, et pas un assemblage absurde digne du livre de Tim Burton. Chauvin chercha donc des chaussures. Mais ses lapins étaient réfractaires et faisaient tout pour éviter de se faire enfermer dans un habitacle de cuir, de toile, de velours, de bois, de plastique, de fourrure, etc. Chauvin endormit donc ses pieds à l'aide de salades assaisonnées aux somnifères. Et il les fourra dans les premières chaussures qu'il put acheter. C'est-à-dire une paire de chaussures pour danser le flamenco. Il entendit ses lapins se réveiller, mais il était trop tard, il avait passé les chaussures. Bien que ses chaussures de flamenco lui donnaient une démarche étrange, Chauvin se sentait homme. Il parada en rue et tout le monde se demanda qui était cet étrange animal à la démarche alambiquée. Chauvin marcha toute la journée à s'en tuer les pieds. Ce qui arriva. Mais comme ses lapins fournissaient ses défenses immunitaires et qu'il ne buvait pas d'actimel, Chauvin Plaxius mourut d'un rhume 2 jours plus tard.
Merci Will. Et virgule très prophétique du groupe Lost Prophets avec la chanson Can't Catch Tomorrow, Good Shoes Won't Save You This Time. Les chaussures n'ont pas sauvé l'homme au lapier. Merci surtout pour avoir écrit cette histoire délirante, Will.
Bah, faut remercier professeur de philosophie en hippocane surtout.
Qui était très ennuyeuse.
Voilà.
Voilà, il me semble que nous avons un peu allégé l'atmosphère et nous voilà donc prêts, bon pied, bon oeil, pour commencer une discussion au pied levé. Marie Balmary, psychanalyste et exégète, a écrit tout plein de bouquins passionnants et voici un extrait de La divine origine, Dieu n'a pas créé l'homme. Tadam ! Vous n'imaginez même pas à quel point je prends mon pied à l'idée de pouvoir la citer dans cette édition, d'autant que je pense devoir mon entrée à l'ENS au fait de l'avoir cité dans ma copie de philo. Pardon, je reviens les pieds sur terre, ma vie ne vous intéresse pas. Extrait du chapitre intitulé Les sandales de Moïse.
Me voici.
Pour ne pas épuiser l'attention du lecteur, ni la mienne, je pars dans mes souvenirs de voyageuse, dans les textes et dans les conversations. Une année, j'avais eu à rédiger quelques pages de réflexion sur le sens du vêtement selon la tradition biblique. Plusieurs mois après avoir rendu ce petit travail, je rencontrais, au hasard des journées en bibliothèque et des repas qui les suivent, un chercheur dont j'avais fait la connaissance lors d'un précédent séjour. Il avait entendu parler de ce court article que, me dit-il, il n'avait pas lu, et en plaisantant me demanda « Avez-vous pensé, ou bien avez-vous oublié, comme X, qui avait écrit trois sur le même sujet, avez-vous pensé aux chaussures ?» Je m'aperçus à ma grande confusion que j'avais moi aussi oublié cet élément. Nous étions plusieurs à la même table, la conversation s'engagea sur l'importance des chaussures, avec la légère taquinerie qui permet à des chercheurs de prêter attention à la recherche des autres, tout en se reposant du travail de la raison. Tout de suite, on me fit remarquer que la première fois que Moïse rencontre Dieu, au début de l'Exode, il doit enlever ses sandales. En signe de respect, ajouta un interlocuteur en accentuant légèrement les mots. Dans le procès plaisant qui m'était fait, j'essayai de trouver un argument pour ma défense, et pour cela de me souvenir du texte hébreu au début du chapitre 3 de l'Exode. Je sentais bien que ce qui m'était dit là ne me convenait pas. Ce que mes interlocuteurs avaient deviné, évidemment. Je repassais mentalement la scène. Moïse, venant paître à travers le désert les moutons de son beau-père, voit un buisson qui brûle et qui n'est pas mangé par le feu. Il fait donc un détour pour voir de plus près. Alors Elohim l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, me voici, n'approche pas ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est terre sainte. » Pourquoi « n'approche pas » et « ôte tes sandales » ? Un seul interdit ne suffit-il pas entre « je » et « tu » ? Que faire alors de la seconde injonction ? Alors le mot « sandale » en hébreu me revint en mémoire. « Nal », d'un verbe qui a la même forme que le substantif et signifie « fermer, verrouiller, serrer, les pieds dans ses chaussures ». Je dis donc à mes compagnons de repas qu'en hébreu, « retirer ses sandales », c'est enlever ce qui serre, ce qui verrouille les pieds. Ma voisine, qui n'avait encore pas parlé au cours de cet échange de spécialistes, elle était en effet la seule à cette table, je crois, à n'être pas chercheur, mais notre hôtesse, dit alors « En arrivant chez moi, la première chose que je fais, c'est d'enlever mes chaussures. » Cette interprétation nous fit rire ensemble et nous convainc tout à fait. La suite du texte, d'ailleurs, devenait claire. « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte, non pas le lieu où je me tiens. » « Enlève tes sandales, dit l'Éternel, car la dama sur laquelle tu te tiens, debout, près de je, mais pas tout près, ce lieu est saint. Et c'est chez toi. » C'est intéressant qu'ici, je trouve, on ait un glissement entre la notion de les pieds liés à la notion de respect, donc cacher les pieds qui peut être quelque chose de tabou dans certaines cultures, culture chinoise. À l'époque victorienne, les chevilles des femmes, c'était extrêmement érotique, il ne fallait surtout pas les montrer. Et qu'on passe au contraire à la notion de pied comme quelque chose, comme être confortable, être bien et être chez soi quand on enlève ses chaussures.
Mais il était temps que dans l'émission, quelqu'un renverse la tendance, parce que jusqu'à présent, les pieds, c'est soit douloureux, soit on les perd, ou alors on les enferme, ou alors c'est un point faible.
Ouais, c'est vrai, avec c'est... Achille. Donc, est-ce que cette dichotomie vous intéresse ?
Oui.
Est-ce que tu peux développer ta réponse, Willem ?
Oui, mais du coup, c'est vrai que oui, la notion des pieds comme respect, etc., ou comme confort chez soi, etc., c'est, c'est peut-être intéressant à rapprocher notamment du conte d'Andersen finalement, puisque le fait pour la petite sirène de vouloir des pieds, c'est aussi pour avoir une âme, parce qu'elle n'en a pas, mais aussi une sorte de chez-soi, puisque le but ultime, c'est faire en sorte que le prince tombe amoureux d'elle et plus. Et donc, trouver une sorte de stabilité, quoi.
Donc, fonder un foyer.
Ouais, voilà, fonder un foyer, quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Copenhague.
Non.
Donc, il y a à Copenhague une statue de la petite sirène. Oui. Et qui, assez étrangement, est tout au bout, mais très très loin, d'une jetée sur un quai, quoi. Mm-hmm. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, il faut marcher pendant très très longtemps pour aller voir la petite sirène qui sort de la mer et qui demande à avoir des pieds.
Donc souffrir comme elle a souffert
voilà,
en marchant.
Voilà, c'est pour reprendre conscience de ses propres pieds, je sais pas. Non mais c'est vrai qu'il y a un vrai, tu disais ça tout à l'heure, mais il y a un vrai fétichisme du pied qui va plus loin que juste avoir des jambes, c'est avoir un sexe, t'as raison. Mais au cinéma, il faut pas aller très très loin, hein, mais Tarantino, il passe sa vie à filmer des pieds. Donc je crois même qu'il dit qu'il fait des films pour filmer des pieds de ses comédiennes.
Attends, je cherche des exemples, mais dans Kill Bill, je vois pas trop.
Donc Kill Bill bouge le gros orteil pendant 10 minutes.
Ah oui,
un
oui,
des
oui.
pieds en gros ouais. plan.
C'est vrai.
Et puis, il y a pour certains quelque chose de très, très érotique dans le pied. Alors après voilà, les petits pieds de la madame chinoise de tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est culturellement.
C'est-à-dire que c'est quelque chose que la société va essayer de réprimer et dire, comme dire aujourd'hui, il faut porter des talons, c'était une femme. Alors que...
C'est pareil, c'est très dur de courir avec des talons, donc c'est toujours la même...
Oui, pourtant, les femmes courent avec des talons, je ne sais pas comment elles font.
Ça doit dépendre. Je pense que il y a peut-être certaines femmes qui ont genre un sens de l'équilibre ultra aigu, tu vois, et donc du coup elles peuvent courir avec des talons.
Ou alors c'est des anciennes sirènes, du coup elles font beaucoup d'efforts pour ne serait-ce que marcher, du coup elles sont très entraînées, je sais pas.
C'est du masochisme donc.
C'est une hypothèse.
Mais de toute façon, je pense que le pied en soi, ça a une charge, érotique ou en tout cas un intérêt, parce que je pense pas être le seul à photographier mes pieds quand je fais du tourisme à l'étranger, etc. C'est aussi... non, d'accord, je suis le seul.
Non, mais on en a déjà parlé, moi aussi, ouais, je le fais.
C'est ça, c'est un truc, je sais pas, c'est un truc simple à prendre en photo, et puis en même temps, c'est un côté rigolo, je pense, les pieds.
Et tu t'es rendu compte, donc, aujourd'hui, que c'était très biblique. De photographier tes pieds sur la terre sainte, qui est la terre qui t'entoure.
Le lieu où tu te tiens, voilà. Ouais. Et c'est, oui, de laisser son empreinte quand on fait du tourisme, il y a un peu ce côté-là.
C'est mon côté canadien qui ressort quand je prends des photographies. Oui, non, puis c'est vrai que en fait c'est très lié à cette notion de liberté, parce que Édipe, c'est pareil, si ses pieds étaient bandés ou vissés dans d'autres versions, c'est aussi pour le condamner en gros à être bouffé par des loups, quoi, donc pas pouvoir s'enfuir en quelque sorte, et voilà, donc comme cette dame chinoise, en fait les pieds, c'est toujours un organe de souffrance, en fait.
Ouais.
Je voulais savoir, Will, est-ce que tu considères que les lapiers sont ta réécriture de la petite sirène?
C'est possible, honnêtement, parfois il se passe des choses dans ma tête, c'est possible que ce soit ma réécriture. Voilà. Ou alors, en fait, l'histoire complète, c'est qu'on avait donc des cours de philosophie en Hippocane qui étaient d'un intérêt relatif. Et,
pas relatif, hein, juste pas l'intérêt.
Voilà. Et on s'était donné avec quelques amis, on s'était dit, on va faire un concours d'écriture, donc on a 2 heures pour écrire sur un sujet, et le premier sujet qu'on a trouvé, c'était les chaussures. Et donc voilà, j'ai pondu ça et j'ai un peu recoupé depuis. Et voilà.
Du coup, c'est le côté animal qui ressort dans ses pieds, qui fait qu'il sort de la norme. C'est un monstre.
Ah bah là, oui. C'est... Je pense que, je sais pas, je me suis dit au départ que c'est très drôle d'imaginer un mec avec des pieds en forme de lapin. Mmh. Et après, des pieds qui étaient des lapins. Et oui, non, mais c'est vrai que ça peut avoir un petit côté petite sirène.
Non, parce qu'en fait, au final, ses pieds meurent et il meurt derrière. Ouais. Quoi. Donc, son âme était dans ses pieds, peut-être.
L'intérêt, c'est que les pieds, c'est extrêmement prosaïque. Enfin, c'est les choses, la première chose que l'on peut penser pour faire un roman d'écriture, mais c'est aussi les pieds poétiques. Et Rimbaud, c'est intéressant, du coup, dans le vers, mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Et les élastiques, qui sont les lyres, qui sont les cordes de la lyre, donc faire chanter les pieds.
Et puis des figures, de toute façon, de marcheurs, pour voyager et voir des paysages magnifiques et faire de la poésie, il faut avoir des pieds.
Ouais.
Et si on y pense... Les gros plans de pieds les plus importants du cinéma, c'est pas chez Tarantino, en fait, c'est dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui va marcher pendant 6 films, 3 films chacun, Et on présente leurs pieds, enfin ses pieds comme un personnage à part entière quasiment. Alors c'est après vrai. On l'oublie un peu et on se dit le pauvre il marche pieds nus tout le temps et dans les montagnes.
Ils ont une corne très épaisse sous les pieds, je crois. Mmh. J'aimerais.
La beauté des pieds. Et donc nous espérons, lecteur, t'avoir apporté des nouvelles idées pour prendre soin de tes pieds. Parce que des pieds en bonne santé, c'est de l'actimel en moins consommé.
Are you ready, Boots? Start walking.
En virgule, vous écoutiez Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. Et c'est déjà la fin de cette dernière émission. Alors, un grand merci aux dieux qui permirent la création de l'humanité. Aux muses, toujours en retard, mais sans elles, point d'art. Aux reines et aux rois, aux princesses et aux soldats, aux crapauds, aux corbeaux, aux baleines et aux agneaux. Aux loups et à leurs proies, aux gémissements des veuves dans le silence de leur lit froid, aux esprits des forêts, aux absents qu'on a pleurés, et à la joie de vivre ensemble dans un monde que l'on va tous quitter. Épilogue à la sublime pièce « L'abandon au désir » ou « La véritable raison de la mort d'Achille », jouée en fin d'année scolaire 2010 au lycée Michelet de Vanves par la troupe des élèves de Frépa. Texte écrit par Eddy, leur prof de théâtre, et déclamé par Milena, avec une voix à vous donner des frissons jusque dans les doigts de pied.
Oui, et dont on se souvient longtemps, très longtemps après.
Ouais, moi j'ai eu le texte en fait, donc je m'en souviens pas par cœur, faut pas exagérer non plus. Ben ouais, c'est la dernière, il faut caser toutes les lectures qu'on aime avant qu'il soit trop tard. L'année prochaine, je pars à Nice, Camille en Amérique du Sud et Willem en un grec de lettres modernes. Donc, même si des petits nouveaux de Transistor décident de reprendre le concept de l'émission, ce ne sera plus pareil.
Moi, je serai là.
Oui.
Donc, en fait, tu es le dernier des quatre petits nègres.
J'hésite, peut-être je vais reprendre l'émission tout seul. Avec que des extraits sonores de vous sur ces archives. Avec des petits morceaux de son des textes que vous n'avez jamais lus.
Oh là là. En tout cas, il est donc temps de faire nos adieux. On aurait voulu faire d'autres émissions encore, une sur le vélo, une sur le sport, la science, et une amouréenne, où il y aurait eu d'une part des textes récités, d'autre part des textes détestés. Mais il y a une certaine logique à finir par les pieds quand on a commencé avec les yeux et les oreilles, en passant par les blagues en dessous de la ceinture. Et puis 14, 1 plus 4 égale 5, 5 orteils à chaque pied, eh ouais. Nous avons donc le dernier t-shirt du jour, Robin. C'est Slipman, donc comme Superman, sauf avec un slip, et donc pas de pantalon. Donc le slip... sous-vêtements, comme les chaussettes.
Il n'a pas de pied.
Il a pas de pied aussi, oui. Effectivement, on ne voit pas le bas du corps. C'est peut-être bien parce que, vu le reste de ce qu'on voit, Slipman n'est pas en aussi bonne forme que Superman. Donc, thème du jour proposé par moi-même, maquette et playlist réalisée par Will et moi-même, avec une proposition de Robin qui fera office de virgule de fin. Et maintenant, il est temps de distribuer des fleurs. Merci à Willem, Camille et Viviana, mes collecteurs, pour avoir subi mon empire tyrannique et mes mails intempestifs et avoir fait de cette émission un tel plaisir à maqueter, à enregistrer avec leurs textes originaux, leurs voix sublimes et leurs commentaires loufoques.
Et merci à toi aussi, parce que sans toi, il y aura peu d'émissions.
Merci à tous nos invités du deuxième semestre, Jérémy, Thomas, Lola, Laurent et Marie. Merci à Guillaume Gaillem et son émission sur France Inter, Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal, qui m'a donné envie de faire de la lecture à la radio. Merci à Transistor d'exister. Merci à l'ONS, tant qu'on y est, hein. Merci une deuxième fois à Will pour avoir téléchargé et découpé les musiques que j'intégrais dans la playlist. Mille merci à Robin pour nous avoir enregistré du début à la fin, toujours avec bonne humeur et des t-shirts géniaux, assistance technique en cas de sifflement ou grésillement sur les rushs, et un emploi du temps très flexible à nos caprices. Merci à nos auditeurs fidèles, comme Marie l'historienne, Lola la présidente, et puis ma maman, hein, soyons honnêtes. Voilà, si vous voulez remercier vos mamans, je vous laisse.
Mais oui, bien sûr, merci à nos mamans.
Merci à la sienne. Je ne m'attendais vraiment pas. Je voudrais remercier mon producteur et toute ma famille et tous les gens qui étaient derrière moi. Merci beaucoup.
Moi, j'ai tout fait tout seul.
Alors, pour faire le script, j'ai tiré la plupart des expressions sur les pieds de ma tête, mais quelques-unes d'un site internet. C'est incroyable le nombre qu'il y en a, vraiment, je vous assure. Et j'en ai trouvé une que je trouvais vraiment marrante. Les doigts de pied ont eu chaud aux oreilles. Apparemment, ça se dit quand quelque chose est tombé très près de vous. Donc, j'imagine quasiment sur vos pieds. Avec donc chaud aux oreilles, aux yeux et aux pieds dans cette chaleur caniculaire, le studio mobile n'étant pas super bien isolé, les yeux et les oreilles tirent leur révérence. En virgule de fin, un chou de Robin, Thomas Fersen, chante Le Chapeauté ou C'est dur de draguer quand on est vendeur de chaussures. Le pied comme objet de désir charnel et artistique, le tout dernier excipit sera celui de Balzac avec le chef-d'œuvre inconnu, lu par Will. Nous espérons vous avoir ému et fait rire aujourd'hui encore, comme depuis septembre dernier avec nos lectures assaisonnées d'extraits musicaux et de bêtises. Mais que ce soit le cas ou non, une chose est sûre sur cette bonne terre. Vous avez toujours la possibilité de fourrer une heure dans un livre. Connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe. Tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles.
Quand soudain le carillon annonce la nuit, et pareil à Cendrillon, la fille s'enfuit, me laissant désappointée, la mule à la main. Elle s'enfuit du chavoté, passe son chemin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles.
En s'approchant, ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme. Mais un pied délicieux, un pied vivant. Ils restèrent pétrifiés d'admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction. Ce pied apparaissait là, comme un torse de quelque Vénus en marbre de Paros qui surgirait parmi les décombres d'une ville incendiée. « Il y a une femme là-dessous !» s'écria Porbus, en faisant remarquer à Poussin les couches de couleurs que le vieux peintre avait successivement superposées en croyant perfectionner sa peinture. Les deux peintres se tournèrent spontanément vers Fraenhofer, en commençant à s'expliquer, mais vaguement, l'extase dans laquelle ils vivaient. « Il est de bonne foi, » dit Porbus. « Oui, mon ami, » répondit le vieillard en se réveillant. « Il faut de la foi dans l'art, et vivre pendant longtemps avec son œuvre pour produire une semblable création. Quelques-unes de ces ombres m'ont coûté bien des travaux. Tenez, là, sur la joue, au-dessous des yeux, une légère pénombre qui, si vous l'observez dans la nature, vous paraîtra presque intraduisible. Eh bien, croyez-vous que cet effet ne m'ait pas coûté des peines inouïes à reproduire ? Approchez, vous verrez mieux ce travail. De loin, il disparaît. Tenez, là, il est, je crois, très remarquable. » Et du bout de sa brosse, il désignait aux deux peintres un pâté de couleur claire. Porbus frappa sur l'épaule du vieillard en se tournant vers Poussin. « Savez-vous que nous voyons en lui un bien grand peintre ? » dit-il. « Il est encore plus poète que peintre, » répondit gravement Poussin. « Là, » reprit Porbus en touchant la toile, « finit notre art sur la terre. » »« Et de là, il va se perdre dans les cieux, » dit Poussin. « Combien de jouissances sur ce morceau de toile ! » s'écria Porbus. Le vieillard absorbé ne les écoutait pas et souriait à cette femme imaginaire. « Mais tôt ou tard, il s'apercevra qu'il n'y a rien sur la toile, » s'écria Poussin. « Rien sur ma toile, » dit Fraenhofer en regardant tour à tour les deux peintres et son prétendu tableau. « Qu'avez-vous fait ? » répondit Porbus à Poussin. Le vieillard saisit avec force le bras du jeune homme et lui dit « Tu ne vois rien, manant ! Maeustre, bélitre, bardache, pourquoi donc es-tu monté ici ?»« Mon bon Porbus, » reprit-il en se tournant vers le peintre, « est-ce que, vous aussi, vous vous joueriez de moi ? Répondez, je suis votre ami, dites, aurais-je donc gâté mon tableau ?» Porbus, indécis, n'osa rien dire, mais l'anxiété peinte sur la physionomie blanche du vieillard était si cruelle qu'il montra la toile en disant « Voyez !» Fraenhofer contempla son tableau pendant un moment et chancela. « Rien, rien, et avoir travaillé 10 ans !» Il s'assit et pleura. « Je suis donc un imbécile, un fou, je n'ai donc ni talent ni capacité, je ne suis plus qu'un homme riche qui, en marchant, ne fait que marcher. Je n'aurais donc rien produit. » Il contempla sa toile à travers ses larmes, il se releva tout à coup avec fierté et jeta sur les deux peintres un regard étincelant. « Par le sang, par le corps, par la tête du Christ, vous êtes des jaloux qui voulez me faire croire qu'elle est gâtée pour me la voler. « Moi, je la vois !» cria-t-il, « et elle est merveilleusement belle !» Il jeta sur les deux peintres un regard profondément sournois, plein de mépris et de soupçons, les mit silencieusement à la porte de son atelier avec une promptitude convulsive. Puis, il leur dit sur le seuil de son logis « Adieu, mes petits amis !» Cet adieu glaça les deux peintres. Le lendemain, Porbus, inquiet, revint voir Fraenhofer et apprit qu'il était mort dans la nuit, après avoir brûlé ses toiles.